Radio Europe 1, 2 heures de divertissement, plus 5 complices, plus des dizaines de fous rires, plus un chef d'orchestre égale du pur bonheur et de la bonne humeur. Bonjour très cher Laurent Ruquier.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Laurence Boccolini, Stevie Boulet, Philippe Gueluc,
bonjour,
Jérémy Michalak, ouais, et Fabrice Éboué. Je vous prends à la gorge un peu, Laurence Boccolini, parce que je vous ai vu arriver pendant le flash d'info de 16h, là, en courant.
Mon taxi n'est pas venu.
Comment ça, votre taxi n'est pas venu?
Non, j'ai commandé un taxi, il n'est pas venu.
Ah, ça m'est arrivé la semaine dernière.
Oh, moi, ça m'arrive tout le temps.
C'est-à-dire que si vous les commandez toujours à RTL, c'est normal qu'ils prennent du temps.
C'est vrai,
du temps pour venir.
Très con quand même.
Auditeur depuis toujours de Laurent et de ses équipes, m'écrit Simon. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, voilà pourquoi je vous prends à la gorge, parce que le mail vous concerne. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens de l'interprétation de Laurence Boccolini, façon cantatrice de Belle des Champs. À l'époque, j'avais mis comme musique d'accueil ce moment radiophonique dans mon répondeur téléphonique. Pourrait-elle, rien que pour moi, en réinterpréter quelques mesures?
Qu'il est bon, qu'il est crème, au ton fromage. Dis, donne, 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 Belle des Champs. Dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, 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 dis, Belle, Belle des Champs.
Ah oui.
Avec la crème.
Il risque pas d'avoir beaucoup de messages sur son téléphone.
Faut pas mettre ça.
C'est pas le mec qui chante Topinette qui va commencer à donner des choses aux autres. Peut-être si Fabrice vous faisait Topinette.
Fais-moi Topinette.
Après, vous le feriez version opéra, ça pourrait lui faire plaisir à Fabrice.
Tu la connais?
Mais non, la connais pas, Topinette.
Topinette, il faut garder tes lunettes. Topinette.
C'est ridicule.
Il n'y a pas d'air.
Ah si, Topinette.
Et la levure vaillinée, il suffit d'un petit peu de levure vaillinée pour voir la pâte gonfler et l'entendre s'écrier. Vaillinée, c'est gonflé.
Parce que j'aimais bien, c'était « Dans mon grain, il y a des fruits, tout ce qu'il faut. Dans mon grain, il y a de l'eau, oui, mais pas trop. Il y a des fruits,
il y a des fruits,
il y a de l'eau,
il y a de l'eau.
Y a des fruits, tout ce qu'il faut, il y a de l'eau, mais pas trop. Et quand je fais de la purée mousseline. » Voilà Laurent.
Oh oui, faites-la moi, oh oui. En plus, j'adore la purée mousseline, j'adore ça. Vous me la faites, la purée mousseline?
Ah ben, c'est tout. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Je fais un petit volcan avec du jus dedans.
C'est beau, c'est des vieilles pubs.
J'en fais moi parfois pour Joujou.
Ça devient dégueulasse.
De la purée.
De la purée des petits. Ah oui, d'accord. Vous la faites à la main.
Je me demandais si j'ai de la purée. Dans son petit volcan.
Ouais, c'est ça. C'est de la purée ou des petits trous dedans, je comprenais pas.
Oh là là. Sinon, il y avait.
Oh bah non, c'est quand même pas vous, Stevie, qui allez être choqué. Ça, c'est quand même.
J'en suis attentatisé.
C'est vrai que maintenant, Stevie à côté de Joujou, il fait hétéro.
Ça, c'est vrai. Il y a plein de gens qui me l'ont demandé, ce qui se passe entre vous.
Il est pas choqué, il est jaloux. En fait. Non, mais c'est des vieilles pubs, c'est ça?
Oui, bah oui, c'est de notre génération. Alors, c'est
est-ce que vous vous rappelez de « Je voudrais faire un cadeau à ma femme, il paraît que vous en avez reçu à nouveau. Oui, ma femme est en train d'essayer, je suis au courant, c'est un bleu, bleu comme l'aube.
C'est cool.
La vivacité du citron vert. » Ah voilà, celle-là était grande, celle-là.
Je connais pas ça.
Oh, mais si, tu sais, ils rentraient dans une boutique et ils essayaient le PQ comme, tu sais, avec toutes les couleurs.
Et Joujou, il dit « Non, c'est des matelas. » Mais non, ils ne rentraient pas dans un truc de matelas pour s'essuyer le cul sur les matelas.
On dirait la pub Mérinos.
C'est marrant, parce que t'es trop jeune pour connaître ça.
La meilleure des pubs, c'est peut-être ce mail envoyé par un garçon qui s'appelle Simon, un jeune garçon, et qui écrit « Monsieur le chat, je vous remercie beaucoup pour le super cadeau que vous m'avez envoyé pour mes 10 ans. Mes copains vont être verts, je vous embrasse bien fort. » Et on voit un petit garçon de 10 ans, donc j'imagine, avec devant lui l'album du chat dédicacé. On a l'impression que c'est Natacha Campouche.
Il est détenu.
Pris en otage.
Libéré Simon.
Pris en otage par Philippe Gueluc, qui l'a forcé à lire le chat.
Mais c'est bien parce que c'est le livre que j'ai dédicacé la semaine dernière et ça veut dire qu'il les envoie, qu'il les garde pas pour eux.
Est-ce que vous sentez la joie de vivre sur le visage de cette petite garçon?
On sent qu'on a obligé à lire le chat.
C'est ses parents qui aiment, tu sais.
Alors ça tombe bien, oui, Fabrice.
Non, il donne envie de déclencher une alerte enlèvement quand tu vois sa tête, vraiment.
Ça tombe bien qu'on parle de pub là dans cette émission dès le départ, parce que justement, un auditeur me dit, cher Laurent, sur Europe Europe, tous les jours, on entend de la pub pour Ménophytea et Manae, les médicaments contre la ménopause. Mais vos chroniqueurs du jour sont aussi des publicités vivantes pour des médicaments.
Ah bon ?
Par exemple, les culturistes peuvent prendre du boubounéor pour avoir des pectoraux à faire baver Titoff. Attention, ça fait pousser les cheveux. En revanche, pour continuer à monter un poney toute sa vie sans que les pieds touchent par terre, il y a la joujouvérine. Ça rétrécit tout. On peut aussi trouver du Bocolinix pour ressembler à Liza Minnelli jeune.
Oh, c'est jeune, c'est gentil.
Pour avoir un accent à la con et tenter le casting de Plus belle la vie, on peut essayer le Titofax. Attention, ça fait prendre du ventre. D'ailleurs, notre ami Titoff est malade aujourd'hui, il en a trop pris. En cas d'allergie au chat, ne pas prendre du Gelucon, ça les attire. Enfin, pour se faire pousser les dents, rien ne vaut le Stivitan. Gros effet secondaire à prévoir, certains suspendent leur Joconde dans leur chiotte après. Bon, c'est plutôt amusant. Hein.
C'est vachement bien.
Il y a aussi Michalak qui prend le suppositoire Rukiax.
Qui fond dans la bouche.
Je crois que je vais me faire porter.
Il y avait longtemps.
Vomir.
On avait dit plus de blagues sur juste
sur les bravo. Suppositoires.
Est-ce qu'il a cité le Vermux qui remplace la Dragifuca?
Je suis passé dans votre émission au challenge des auditeurs hier. Je n'ai pas gagné. Mais... je suis très heureuse quand même d'avoir pu parler avec vous, Laurent. Le fait de devoir réviser l'actualité m'a obligé à relire la presse écrite, chose que je ne faisais plus depuis longtemps. C'est Marilyn. Vous vous souvenez de Marilyn hier? En s'intéressant à ce qui se passe dans le monde, aux autres, finalement, on se détourne de notre petit nombril. C'est pas plus mal. Donc, je conseille à tout le monde de relire la presse comme j'ai été obligé de le faire hier pour votre jeu. Merci Laurent de m'avoir remis dans le droit chemin.
Elle a bien raison et c'est un message qu'on pourrait nous écouter par exemple au Soudan, les enfants qui meurent de faim, s'ils s'intéressaient un peu à ce qui se passe dans le monde, ça s'intéresserait à autre chose qu'à leur petit nombril. Ça les détournerait de leur petit tracas quotidien.
Exactement, ils penseraient autre chose qu'eux-mêmes.
C'est vrai, franchement. Les otages, tout ça, s'ils lisaient Libération.
Bien sûr.
Ça les aiderait déjà mentalement.
J'ai cependant un petit regret, m'écrit Marilyn, je voulais passer un petit message à ma petite Romane qui aura un an le 24 mars et je n'ai pas eu le temps de le faire. Peut-être je n'ai pas osé. Ben voilà, ça y est, elle ose le faire par mail. J'espère que Léonore et Ekel, eux, vont passer leur message dès aujourd'hui. N'attendez pas demain.
Non, bah non.
Bonjour Léonore, bonjour Ekel.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Léonore, vous nous appelez depuis Lyon.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites à Lyon?
Écoutez, j'ai monté une petite boîte de communication graphique, donc je travaille toute seule pour l'instant, mais...
Vous n'êtes pas trop victime de la crise ?
Eh ben pas du tout, figurez-vous, pas du tout.
Ah bah ça fait plaisir à entendre, vous voyez.
Et je travaille plus pour gagner moins, mais je travaille plus.
Pas du tout victime de la crise, donc il va de soi que vous allez partager votre salaire avec ceux qui sont victimes.
Vous avez entendu, je travaille plus pour gagner moins.
Ekel lui habite Mégrine, en Tunisie. Bonjour Ekel.
Je pourrais pas habiter Mégrine.
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe.
Ouais, calme-toi Ekel quand même.
Qu'est-ce que vous faites à Mégrine?
En fait, j'habite Mégrine, mais je travaille en tant que responsable marketing pour un concessionnaire de voitures allemandes en Tunisie. Et donc, à la Charguilla, qui est aussi une banlieue de Tunis.
Tout ça est très clair. Il y a combien de temps que vous êtes là-bas?
Bah, depuis 6 mois, j'ai fini mes études. J'ai fait des études de marketing à l'ESSEC de Tunis. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme, ma maîtrise en juin 2008. Et depuis septembre 2008, je suis responsable marketing et je prépare en même temps mon master en commerce électronique.
Je crois qu'on a bien votre CV là.
Il faudrait que tu nous racontes ta vie depuis 2008.
Vos loisirs, vos hobbies, généralement c'est la dernière ligne.
Ouais, c'est ça. Vous avez fait un stage récemment, non?
J'aime bien, vous savez, connaître l'origine des prénoms. Pourquoi un tel porte tel prénom ou plutôt...
Il a un frère qui s'appelait Jekyll, donc ils ont pris Ekel pour l'autre.
Alors pourquoi vous
appelez... C'est drôle.
Ekel, H-A-Y-K-E-L, ça s'écrit.
Exactement. Ekel, donc, a deux significations en arabe. C'est soit la structure, tout court, une structure, et soit ce qu'on appelle le lieu sacré. Ça peut être une synagogue, ça peut être une mosquée, ou ça peut être
une église. Léonore, pourquoi Léonore?
Eh ben, c'est une bonne question. Je crois que je suis restée pendant un petit moment sans prénom, et puis finalement, ils n'aimaient pas Éléonore. Ils ont choisi d'enlever le E, et voilà.
Léonore, c'est beau.
Je ne sais pas, ça n'a pas de jolie signification, mais voilà, Léonore.
Votre papa n'était pas mineur?
Non.
Vous connaissez pas Pierre Bachelet?
Non.
Léonore,
c'était les corons. J'étais pas obligé, je reconnais.
Mais on l'accepte quand même.
Mais donc, Ekel, ça veut dire structure, et c'est drôle parce que moi je connais.
Merci Juju.
Je connais. Je peux pas, j'y avais pensé aussi. Je peux pas me désolidariser comme ça.
Ils sont bien tous les deux. Ah oui, ensemble.
On rigole le soir.
On se fait rire entre nous.
On fait des concours de jeux de mots le soir.
Une pipe, une blague. Hein,
c'est un peu comme la chanson, mais.
Bon. Léonore contre Heikel. Vous êtes prêts l'un et l'autre?
Oui.
Un petit
oui.
message à faire passer à vos amis, votre famille, les chroniqueurs?
Non, je soutiens particulièrement Laurence Boccolini, qui est la seule femme aujourd'hui. Ah, donc oui. Je lui souhaite bonne chance pour cette journée.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et vous, Heikel?
Si ça vous dérange pas, je voulais passer le coucou à Pierre Bénichoux, que j'adore. Et puis, le fameux, donc, Fabrice Eboué, que...
Le fameux.
Je lui passe, voilà.
Le il est bien.
Parti. Salut, Heikel.
Il est très connu en Tunisie, hein.
C'est vrai?
Il est très connu en Tunisie, bah oui. Aïe. Bah oui, il est très connu en Tunisie.
J'ai jamais foutu les pieds en Tunisie.
C'est bien. Ah, ouais. Ah, bah, ils sont sympas, hein. C'est beau.
Ah non, la Tunisie, c'est vraiment la destination, tu y vas quand t'as plus le choix, quoi. Ça coûte.
Désolé. On va avoir l'ambassade de Tunisie sur les dos.
J'y suis allé, c'était super bien.
Les voyages 10 euros avec les hôtels 8 étoiles au bord de la mer, ça va bien, quoi.
Mais si.
Vous parlez certainement de la Tunisie des années 40.
La structure contre Léonore. C'est parti. Voici la question. À mon avis, il faut être rapide sur ce coup-là. Vous êtes prêts l'un et l'autre?
Oui.
On leur laisse 3 secondes. Hein.
Oh oui,
3 secondes, et puis après vous y allez. Attention, d'accord. Parce que c'est assez simple hein, quand même la question, je m'en aperçois là. Pourquoi M. Castro Giovanni aurait-il saigné du nez? Pourquoi M. Castro Giovanni aurait-il saigné du nez?
Les 3 secondes sont passées.
Attention, les S. Non, ils savent pas.
C'est en rapport avec le cyclisme?
Non,
c'est avec le foot.
Il s'est pris un coup de poing.
C'est en rapport avec le sport?
C'est avec le foot.
Il s'est pris un coup de poing.
Après le match.
Non, non, c'est pendant le.
Par le rugbyman.
C'était Chabal. Chabal.
Voilà. Par Chabal qui.
Un coup de boule de Chabal.
Alors, oui, mais alors là, tout le monde y est allé en même temps.
Mais il l'a trouvé.
Oui, c'est pas mal.
Moi, je dis que le monsieur, il a dit Chabal quand même. Michael, il a dit Chabal.
Oui, mais.
Oui, mais enfin, on l'a pas vraiment. On l'a mis un peu sur le même.
Derrière la vitre, vous dites quoi, vous? Pas facile, hein. François Renucci, notre réalisateur, est désormais juge de cette émission. C'est lui qui décidera, c'est l'huissier, Maître Renucci. Maître Renucci nous dit que c'est le monsieur qui a gagné.
Ah, parce qu'on dirait que vous retenez le filet garni, comme si vous avez... On donne des livres qu'on n'a pas aimés,
bon
que des trucs comme ça. Ça débarrasse les étagères.
On donne des places pour Fabrice Eboué, alors quand même.
On l'a vu, c'est formidable, mais bon, ça va, quoi.
Il va donner les places à Léonore, il ne peut pas y aller, il est en Tunisie, de toute façon.
Avec elle, vous avez gagné, car vous avez dit coup de boule et il a dit Chabal. Bon, Léonore, vous êtes d'accord?
Je n'ai rien entendu, donc je suis
pas. Ah, la mauvaise foi.
Bah, vous pouvez peut-être un peu partager avec Léonore.
Bien sûr, avec plaisir.
On fait ça?
Avec plaisir.
Puisque vous êtes en Tunisie, hein, voilà.
Bien on sûr, vous envoie que plaisir. Les livres de merde, alors.
Mais non, il y a des tas de très bons livres. Mais par exemple, vous allez recevoir le livre d'Alain Juppé, Je ne mangerai plus de cerises en hiver. Publié chez Plon.
Je le veux.
Ça, c'est pas rien. Vous allez recevoir Graines de Top Modèle de Carole Alt, publié chez Fleuve Noir. Et le livre d'Hervé Claude, publié chez Actes Sud, excellent éditeur. Oui. Hervé Claude, ex-journaliste de 20h, qui publie Nickel Chrome.
Oui, oui, oui.
Et aussi un livre excellent dont on a parlé hier. Tout le monde a dit que c'était superbe. Le livre La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao de Juno Diaz chez Plon. Alors, Michalak, vous avez dit que c'était super.
Ah, c'est très, très bien.
Ce bouquin. Donc, alors non, franchement, vous voyez, la preuve que c'est un bon filet garni, il n'y a même pas d'album du chat dedans.
On le compte.
J'aurais bien aimé avoir un album dédicacé, si c'est possible, bien sûr.
Moi aussi, mais je le suis.
Eh bien, allez, vous l'avez. Non, attendez, je ne dis pas allez vous nettoyer. Non, je dis allez, vous lavez. Elle pose propre.
Deux places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia si vous connaissez quelqu'un qui est à Paris et qui peut y aller avant le 12 avril puisque normalement on s'arrêtera le 12 avril. Deux places pour Fabrice Eboué au Comedy Club et puis deux places aussi pour Ma femme est folle au Théâtre des Nouveautés pour Stevie Boulet avec des jours un peu. Vous pouvez y aller lundi par exemple.
Le lundi à 19h30.
Voilà.
Ah c'est pas relâche. C'est
non,
bien, c'est bien.
Stevie
c'est
ne fait jamais relâche.
Il relâche jamais.
Ah non,
relâche rien. Relâche. Il retient tout.
Et mieux que ça, alors là, vous allez même pouvoir en profiter là-bas en Tunisie, Heikel. 1 an d'abonnement pour Cuisine Créative.
Oh,
le magazine d'art de vivre et de gastronomie.
Excellent. Je voulais vous remercier parce que je vais fêter le 28 mars mon 26e anniversaire et franchement c'est un très 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 beau cadeau.
Ah bah voilà.
Alors bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Heikel. Et Léonore, bah, écoutez, je fais confiance à Heikel pour vous offrir quelques bouquins ou vous les repasser une fois qu'il les a lus.
Ah bah, avec plaisir, mais bravo à lui en tout cas, c'était très bien joué. Et merci encore de m'avoir permis de passer votre émission.
T'inquiète pas, Léonore.
Si vous venez en Tunisie, donc...
Non, on n'a pas perdu, hein, on ne s'est pas venu.
vous en prie.
Mais il paraît que c'est très bien, la Tunisie.
C'est bien.
Franchement, Marrakech, Rabat, tout ça. Allez, on vous embrasse.
Ibiza.
On va gêner, se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices, il faut le dire, très en forme aujourd'hui.
Europe 1, la question tirée par les cheveux, spécial Laurent Ruquier.
Alors ça c'est super mauvais signe, il est déjà mort de rire avant de poser la question,
incroyable.
Ça va être super chelou comme question.
Même pas lequel il arrive
la
à
question,
dire.
La question,
déjà pété de rire.
La lettre Q ne sort même pas.
Ouais. J'arrive pas à poser tellement les cons ma question.
Vas-y.
Qu'est-ce que j'ai réussi à faire que Brad Pitt n'a pas réussi à faire?
Je précise, ça n'a aucun rapport avec moi, je vous le dis.
Qu'est-ce que j'ai réussi à faire que Brad Pitt n'a pas réussi à faire?
Toi personnellement?
Alors...
Ah oui, moi personnellement.
Construire des maisons écolo.
Faire une bande.
Animer une émission sur une bande.
Ah oui, bah, faire une bande.
Une bande de
une
quoi?
Bande à la radio. Et on dit pas la bande à Brad Pitt, on dit la bande à Ruquier.
Ça, c'est
la
vrai.
Bande
à Brad Pitt.
Ah, t'as pas réussi à faire.
Pierre Bénichou dans la bande à Brad Pitt.
Vie privée, vie publique.
C'est plutôt vie privée.
Ça a rapport avec sa femme.
Et en même temps. Oui, j'ai réussi à faire des trucs avec sa femme.
Tu l'as fait, sa femme, toi.
Vous avez réussi à parler anglais comme jamais il ne l'a fait dans sa vie.
Non.
Ça a plutôt rapport avec sa vie privée, t'as dit.
Oui, mais en même temps, ça se voit publiquement aussi.
Vous avez réussi à rire comme un
non, abruti. Mais c'est facile quand même. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire que Brad Pitt n'a jamais...
Mais vous avez tout fait. Ah, l'inverse. Ça veut dire que lui, il était beau, puis il vieillit, puis il devient moche, alors que ça, plus t'es vieux, plus tu deviens beau, non?
Oh, comme il est mimi. C'est gentil, ça, mon style. Joujou, t'es viré.
Oh, le faillot.
C'est le concours de l'HQ, cette émission.
J'en sais rien, à pas porter de lunettes, j'en sais rien.
Vous avez réussi à imiter les hamsters sans gonfler les joues.
Je sais pas, ça se voit, je sais pas, moi. À rester plus de 5 ans avec la même femme.
20 ans hein, qu'il essaye, et puis...
Arrêtez de fumer.
Bonne réponse de Philippe Gueluc.
Ah oui. Oh, il faut connaître.
Vous avez jamais réussi, vous.
Ah, si, ça fait déjà 2 semaines que je ne fume plus. Ah, oui.
C'est énorme.
C'est énorme, enfin, quand même.
C'est exceptionnel.
Vous n'avez pas vu 2 semaines que je suis pas comme un malade avec vous à aller à la fenêtre d'Europe 1 pour tenter de fumer, franchement.
Mais la semaine dernière, je vous ai encore vu.
Ah non, pas la semaine dernière. Il y a
deux semaines. C'est bien.
2 semaines aujourd'hui. Et Brad Pitt, ça fait 20 ans qu'il essaye. C'est dans Gala qu'il le raconte.
Il doit avoir les dents jaunes.
Il parvient pas à arrêter. Oui, il a les dents jaunes, il pue du bec. L'acteur a été surpris, cigarette au bec. Merde. Alors qu'il avait annoncé qu'il avait récemment arrêté à cause de ses enfants.
Faut rien dire.
Eh oui.
Dans ces trucs-là, faut rien dire. Faut pas dire que t'as arrêté.
Coldplay, ça vous intéresse?
Ah oui. Coldplay.
Life in Technicolor, c'est leur nouveau single.
I love it.
Est-ce qu'au moins vous connaissez le nom de leur album, vous qui suivez tout ça de près, Laurence Boccolini? Non.
C'est pas Viva la Vida, c'est
mais
pas
oui,
ça,
ça me surprend parce qu'il me semble qu'il y avait un album de Michel Fugain. Je vous jure, qui s'appelait exactement comme ça.
Ils ont tout pompé Michel Fugain, Coldplay.
Mais ouais,
Viva la Vida.
Ah, c'est une chanson de Michel Fugain.
Faites-la moi. Viva la Vida. Viva la
Vida. Mais avant Michel Fugain, c'était une expression espagnole.
Téléphonez à Serge Liado, Coldplay a pompé Michel Fugain. Life in Technicolor.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Laurence Boccolini, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc et Jérémy Joujou Michalak.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation.
Qui
a dit quoi?
Toi.
Je sais faire plus de choses qu'avant. Avant, je devais courir partout. Qui a dit ça?
Brad Pitt.
Non.
Sarkozy.
Un politique.
Ah, Sarkozy, c'est pas mal, mais c'est pas lui. C'est pas un politique.
Carla Bruni.
Courir partout dans le sens, il doit se déplacer à beaucoup d'endroits ou c'est
un sportif?
Qu'est-ce que vous entendez autrement que partout?
Oui, c'est quoi l'autre sens?
Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est sur un terrain de foot?
C'est un sportif.
Il devait courir partout. C'était son métier de courir parce qu'un athlète qui fait des 100 mètres dans le monde entier, il doit courir partout. Je cours aujourd'hui à Melbourne, demain à New York, après-demain à Londres.
Ah non, c'est
Rooney.
Qui ça?
Rooney.
Mickey Rooney.
Le footballeur.
Parce que je crois qu'il lui est arrivé un truc, il a pris 2 cartons jaunes.
Ah, donc, vous avez regardé le foot ce week-end, vous?
Non, j'ai eu la presse.
C'est pas Rooney. Qui effectivement a été expulsé.
C'est du football ou pas?
Putain, mais Stevie, maintenant, je ne savais même incroyable. Pas que vous connaissiez Rooney. Et en plus, savoir qu'il a pris 2 cartons jaunes, ce qui équivaut finalement à un rouge.
Tu peux répéter la phrase, je m'en rappelle plus.
Je sais faire plus de choses qu'avant.
Ah.
Vous avez pas vu cette histoire, c'est scandaleux. Le problème, cet arbitre qui a sorti un carton jaune. Et on s'est rendu compte, en fait, c'était juste sa carte de visite, mais qu'il était un peu incontinent.
Mais qu'est-ce qu'il raconte?
C'est dégueulasse.
Et nous, on le regarde, en plus. Et on le regarde, c'est genre, oh, ça va être super drôle.
C'est pas la peine de nous refiler vos blagues que vous pouvez pas faire chez Michel Drucker.
Il est drogué, que lui.
Voilà, garde-les.
Oh mon Dieu.
Je sais faire plus de choses qu'avant. Avant, je devais courir partout pour gagner un match.
Ah, Amélie Mauresmo.
Pour gagner un match.
Ah merde, j'avais pas dit ça tout à l'heure.
Amélie Mauresmo.
Non, c'est
pas. Quel gars qui est devenu entraîneur?
C'est un français, Tsonga?
C'est pas un français, ça a pas été dit en français. Ça a plutôt été dit dans cette langue. Alors, je vous le fais en langue originale.
Oh yes, yes, yes.
Ah, je sais pas parler.
Avec l'accent, vas-y.
Non, mais ça sent l'espagnol.
C'est faire plus des.
Nadal, Rafael Nadal.
Bravo, vous avez reconnu mon imitation. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Pas commencé à faire l'imitation, t'as reconnu
Raphaël Nadal.
Il sait faire plus des choses.
Et qui espère gagner à Miami, parce que là, il a déjà quand même gagné deux tournois. Il gagne plus tôt que d'habitude dans la saison. D'habitude, c'est vrai, il attend toujours un petit peu, il laisse gagner les autres. Ouais, et puis paf, boum.
Fait un peu le mort, puis pouf.
Il est meilleur encore que les années précédentes.
Il est bien, ce mec, hein.
Ah ouais. Non, il fait tout le temps la gueule, moi.
Oui, il fait un peu la gueule, mais enfin, il est bien.
Moi, je le surnomme Kratoku, parce que toujours il est.
Pardon?
Kratoku.
Et ça c'est joli. Alors mon histoire de pisse dans le truc du matin, c'est dégueulasse. Et Crotocu, ça c'est distingué.
Ça c'est vrai.
C'est pas moi qui suis pas distingué, c'est lui, il est toujours en train de se gratter le.
Mais moi c'est pas moi non plus, c'est l'arbitre. C'est pas moi qui avais pissé sur la carte de visite, c'est l'arbitre.
On n'a jamais vu un arbitre pisser sur sa carte de visite.
Mais c'est pas, parce que on sait pas. Ah, mais...
Tandis que Raphaël Nadal, à chaque match, on le voit effectivement se gratter.
C'est le short qui est trop serré.
Ça porte bonheur, un short très serré.
Ouais, c'est ça doit rentrer.
Et ça doit rentrer, c'est ça.
C'est horrible. Bah
il faudrait qu'il se rase. Attends, mais s'il se rase après quand tu l'embrasses. Ça pique.
Oh.
Ah bah oui.
Europe 1. On va se gêner tous ensemble. Fraternité. Un peu de fraternité, c'est la question politique du jour.
Monsieur Philippe Gustin va sûrement être nommé par le président. Monsieur quoi?
Je sais pas, tâte, monsieur.
Quel titre va-t-il porter?
C'est le frère de Didier ou pas?
J'en sais rien. Monsieur Philippe Gustin va sûrement être nommé aujourd'hui par le président. C'est en tout cas ce qu'annonce Nathalie Chuc dans Le Parisien. Monsieur quoi? Vous savez, il y a eu un monsieur moto, souvenez-vous, il y a quelques années.
Oui. Monsieur radio, monsieur télé, monsieur.
Voilà.
Monsieur chèque pour les pauvres.
Non. C'est en rapport avec la crise.
Monsieur propre.
C'est un rapport évidemment avec la crise, puisque vous le savez, ce soir, monsieur.
Ah, monsieur crédit.
Monsieur va faire les magasins pour relever les prix dans la restauration.
C'est un peu long comme titre.
C'est un peu long.
Ouais, c'est un peu
monsieur
long.
Pouvoir d'achat.
Non.
Monsieur crédit.
Mais voyez, on est plus dans.
Monsieur surendettement.
Non, on est dans cet endroit-là.
Monsieur pouvoir. Non, monsieur pouvoir d'achat.
Ah, monsieur téléchargement illégal.
Non, c'est un rapport avec la crise qu'on vous dit.
Mais c'est un rapport avec la consommation.
Monsieur économie des ménages.
Monsieur bienfait pour les pauvres.
Est-ce que c'est positif le terme? Non. Oh, à ta tête, non.
C'est ni positif ni négatif. C'est signe en tout cas que c'est la crise.
Ah oui.
Monsieur crise.
Non.
Monsieur épargne.
Non, pas monsieur épargne.
Monsieur redressement fiscal.
C'est un mot qui est au pluriel d'ailleurs, mais d'ailleurs qu'on pourrait.
Donc c'est messieurs.
Mais qu'on pourrait mettre au singulier aussi. Non, c'est monsieur.
Monsieur, voilà, je vais
l'indice, c'est un mot qui est au pluriel qu'on peut mettre au singulier aussi.
C'est ça. Et si on met un e à la fin, c'est un mot féminin. Vas-y, démerdez-vous maintenant.
Selon nos informations, le président pourrait nommer ce soir. C'est ce qu'écrit Nathalie Chuc dans Le Parisien. Monsieur... Selon nos informations, le président pourrait nommer ce soir un monsieur.
Ce soir, donc c'est en rapport
le
à son
poste serait confié à Philippe Gustin, directeur adjoint du cabinet de Luc Chatel, qui est le ministre de l'Industrie, vous le savez.
Ah monsieur, je vais sauver les industries qui vont fermer.
Non.
Monsieur entreprise.
Non.
Mais c'est lié à son déplacement.
Monsieur redressement fiscal.
Non. Ah, mais on avait déjà la première lettre. Monsieur, voilà, je
monsieur,
vous aide.
Monsieur rescousse.
Non. Monsieur retraite complémentaire.
Non.
Monsieur...
Est-ce que c'est lié avec son déplacement en Picardie?
Monsieur revalorisation.
Non, mais on se rapproche. Oui, en Picardie, oui, puisque je vous ai dit.
Monsieur relance.
Pas relance, monsieur.
Alors, si c'est déjà devait être Jean.
Monsieur.
C'est pas relance, redémarre. Mais c'est re quelque chose.
Monsieur redémarre.
C'est re quelque chose.
Ouais. Reviens.
Reviens.
Monsieur, ouais, c'est ça. Monsieur.
Oh,
monsieur
Villa. Il manquait plus qu'elle.
Monsieur reviens, j'annule tout.
Monsieur reviens.
Reviens.
Ou repart, monsieur repart, ou retourne,
non.
Retourne en France,
monsieur repassage,
non. Monsieur re, alors on monsieur... a les deux premières lettres.
Monsieur remets-nous la même chose.
Non.
Monsieur rescousse,
remaniement.
Qu'est-ce qui se passe avec les entreprises?
Elles ferment.
Et où vous cherchez pas un journal?
Hey, triche.
Oh là, sale tricheuse.
Je cherche pas dans le journal, monsieur. Regardez, j'ai rien.
Prenez-moi ce journal, Stevie.
Il n'y a rien, monsieur. Il n'y a rien du tout. Mais Fayot, lui file pas.
C'est pas revalorisation.
Non, reclassement. Pour reclasser les gens dans les. Replacement.
Non.
Réouverture.
Non.
Non, bah non.
J'aime bien ce qu'il le crie en grand triomphe à chaque fois du service.
Et ce qui
recapitalisation.
Ce qui me rassure, c'est que nos deux auditeurs à l'écoute ne trouvent pas non plus. Hein.
Mais on n'a pas de challenge là avec
les pires que ça.
Philippe Gustave va être nommé monsieur Re.
Donne la deuxième lettre, la troisième.
Reviens, Jésus, reviens.
S, la troisième lettre.
Restructuration.
Bonne réponse de Fabrice Eboué.
T'aurais dû dire Aïkul, on savait la structure.
Monsieur Restructuration, voilà. Quand même, il peut être fier, Philippe Gustin, d'être nommé monsieur Restructuration.
Il est pas sorti, le type, hein. Il est pas sorti parce que pour restructurer, dis donc.
Il y a du boulot.
Ouais, c'est le job de merde en ce moment, quand même.
On va regarder, évidemment, ce soir, monsieur Sarkozy, en direct de Saint-Quentin, annoncer un nouveau souffle à sa politique économique et certainement tenser les grands patrons, puisque c'est un peu le leitmotiv du moment et qu'on a vu qu'il y a encore un grand patron, là, qui. Vous avez vu ça un peu, hein?
L'autre, il part, t'as vu, avec
3 petits millions d'euros, alors que l'entreprise est en difficulté.
Il a l'air content, en plus.
Monsieur Morin.
Mais il va tancer qui?
Les grands patrons.
Les grands patrons.
Pourquoi?
Tansons.
Les jours contre jours.
Tansons. Ah, les grands patrons.
C'est une belle chanson. Bien sûr.
Vous chantez des chansons modernes, des fois, aussi?
Europe 1, on va se gêner.
La question, 24 secondes chrono pour répondre.
Sinon, mes chroniqueurs sont des cons.
Un sondage réalisé par Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population de 1034 personnes nous indique, c'est un sondage Ipsos Vito, que 69% des Français ressentent du dégoût vis-à-vis des insectes. Et alors, on a la liste des insectes qui dégoûtent le plus les Français. En tête du hit parade des insectes qui dégoûtent le plus les Français.
Non. Les cafards.
Les cafards arrivent en tête. Et puis, un peu derrière, il y a les abeilles, les guêpes et les araignées. Mais en deuxième position, derrière les cafards, quels sont les insectes qui dégoûtent le plus les Français?
Mouches. Les mouches.
Avant les abeilles,
les
avant
fourmis.
Les guêpes. Non.
Les morpions?
Non.
Les punaises.
Les acariens, c'est dans les insectes?
Alors, c'est pas forcément des gouttes, hein. C'est ce que craignent les Français.
Ah, les acariens. Les frelons.
Non.
Non, les chiens qui font sur les trottoirs.
Les scarabées?
Je crois que ça pique pas, non.
Ça pique pas.
C'est moche.
Les coccinelles.
Je vais vous dire, je sais pas si c'est moche, je crois que j'en ai pas vu beaucoup de ma vie.
Les scarabées?
Les papillons?
Les papillons, non.
Mais il a déjà vu un papillon, quand même.
Je sais pas, il a vécu quoi?
T'en as pas vu?
Ouais, tout est en noir et blanc.
Les papillons, ils sont pas en couleur.
C'est pas vrai, j'allais chasser les papillons dans le champ à côté.
Attends, ça c'est intéressant. Vas-y, raconte.
Les criquets?
Jamais, vous êtes allé à la chasse aux papillons? Moi, je suis allé à la chasse. Les papillons, ils moches, là, les jaunes avec des taches noires.
Non,
ça c'est des fleurs.
On habite à Paris, nous.
Vous avez jamais vu de papillons?
Dans Paris, il n'y en a pas beaucoup.
Si, enfin, il n'y a pas des tonnes.
Nous, on allait chasser les papillons.
Les jaunes avec des taches noires.
On les ramenait à la maison, puis ils desséchaient dans l'appartement.
Bah oui, enfin, les pauvres.
Les jaunes avec des taches noires.
Les cigales.
Chasser les guépards.
Non, je chassais pas le guépard.
Avec son petit filet.
Les cigales, les criquets, les sauterelles.
L'astic. Ah, les souris.
Non. Ah bah non,
c'est pas un insecte.
Là, l'insecte, on fait mieux. Hein.
Ouais. Le scarabée.
L'astico.
Les mythes.
Bonne réponse de Laurence Boccolini. Christine Rollard est au téléphone. Elle est j'arrive même pas à le dire. Pardon, madame. Aranéologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas spécialisée dans les insectes en général, mais dans les araignées en particulier.
Eh oui, effectivement. Oui, les insectes et les araignées sont différents, hein, parce que les araignées ne sont pas des insectes, sont souvent assimilées, mais bon, ça fait grosso modo partie des arthropodes, des animaux à pattes articulées. Voilà.
Alors, pourquoi dans ce sondage sur les insectes, on nous met les araignées, à votre avis?
Parce qu'en fait, les gens, effectivement, assimilent, d'ailleurs, j'ai entendu une de vos invités dire tout de suite les araignées quand vous avez parlé des insectes. Souvent, en fait, assimilé aux insectes, alors que ça...
J'aime pas ça. Alors, en fait, l'araignée est un insecticide naturel, c'est le contraire d'un insecte.
Mais eh ben voilà, par contre, effectivement, les araignées sont très utiles dans les habitations, parce qu'elles peuvent manger des insectes, elles, par contre. Donc, ils sont quelquefois nuisibles
pour la santé. Donc, vous conseillez de garder les araignées à la maison.
Et oui, même si ça peut pas forcément forcément, il vaut mieux les garder. Effectivement, même si les toiles sont un peu sales quelquefois, il vaut mieux garder ses affectifs.
Bah, il faut les nettoyer, les toiles.
Il faut les enlever.
Oui, puis après,
l'araignée peut se réinstaller, hein, pas de problème. Hein.
Vous en avez chez vous des grosses araignées, des migales, des trucs comme ça?
Non, parce que j'aime pas forcément les voir en terrarium. Je préfère les voir sur le terrain, mais les araignées classiques de nos maisons, je les laisse, oui.
Qu'est-ce qu'on peut voir au Muséum d'histoire naturelle comme araignée?
Il y a un vivarium où on peut voir effectivement les grosses migales tropicales, et puis moi j'ai également quelques migales ici dans le laboratoire, hein. Mais autrement c'est effectivement surtout des collections d'animaux qui sont morts, hein. Donc les araignées sont mortes dans l'alcool et servent à la recherche, hein. Donc c'est un peu différent.
Les mythes, ça bon, c'est pas votre spécialité, mais vous comprenez que ça fasse peur aux Français?
Les histoires,
oui, parce qu'en fait les mythes ce sont des petits insectes, hein, mais souvent c'est un peu gênant, souvent dans les habitations, ça va soit dans les denrées alimentaires, soit dans les vêtements, ça fait des dégâts un petit peu, donc c'est vrai que c'est pas toujours très agréable.
Les gens qui ont peur des mythes, c'est bien les mythomanes, c'est ça?
Ça doit être ça, oui.
Madame Christine Rollard est taranéologue. Comment on se spécialise dans les araignées? Ça vient comment, ça?
Moi, un peu par hasard sur les araignées, mais bon, j'aimais beaucoup la nature et tout ce qui était animaux, et voilà, quoi. Et une des circonstances de la vie a fait que j'ai choisi les araignées.
Vous avez une malformation, vous avez 8 pattes, je crois, en fait.
très poilu.
C'est justement une des différences entre les insectes et les araignées. C'est effectivement que les araignées ont 8 pattes et les autres, non, donc.
Oui, et quand on arrache 2 pattes à une araignée, ça n'en devient pas pourtant un insecte.
Eh ben non, pas du tout. Hein.
Est-ce qu'il y a
ça
des...
peut repousser d'ailleurs.
Stevie qui a une belle toile chez lui signée Léonard.
Ouais, moi je les laisse aussi les araignées, mais j'enlève quand il y a trop de poussière sur la toile. En revanche, une chose, est-ce qu'il y a des
avec le plumeau, tu sais.
Non, avec une tête de loup. Enfin bref.
Une quoi?
Une tête de loup.
C'est quoi une tête de loup?
C'est un truc pour nettoyer les plafonds.
Si tu veux, j'ai un peu 4,60 m sous plafond, donc je peux pas y aller en escabeau, donc je prends une tête de loup.
Allez-y en escarpa.
Non, une chose, madame, est-ce qu'il y a des araignées qui peuvent être potentiellement dangereuses si elles nous piquent sur notre territoire?
Oui, plein, toutes.
Est-ce qu'il y a des araignées mortelles pour l'homme en France?
La veuve noire. Il n'y a pas d'araignées mortelles en France, ni au monde d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas mortels, mais sur les 40 000 espèces d'araignées, il y a quoi, une quinzaine seulement qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et en France, on en a 1600, il y en a certaines qui peuvent mordre. Alors, on parle plutôt de morsures que de piqûres, et puis qui peuvent mordre et puis faire des petits dégâts. Mais c'est pas, il n'y en a pas vraiment de vraiment dangereuses et pas mortelles, en tout cas.
C'est Yves Duteil qui a dansé et chanté la tarentule, non? Comment ça s'appelait la chanson?
Oui, oui, oui. Moi, j'avais la tarentule, le tulle.
Mais d'ailleurs, il sera en concert à la Migale très bientôt à Paris.
On vous remercie, Christine Rollard.
Ah oui, merci beaucoup de s'occuper des petites araignées. Hein.
Oui, merci beaucoup.
Araignéologue au Muséum d'Histoire Naturelle. N'hésitez pas, parce qu'il y a d'autres choses que des araignées au Muséum d'Histoire Naturelle.
Il y a des mythes, il n'y a pas de mythes.
Beaucoup d'autres choses.
De temps en temps, on nettoie quand même.
Oui.
On vous embrasse, on vous remercie.
On est dans un état.
Mais avant, sur Europe 1, qui dit on va gêner, dit forcément Laurent Ruquier.
Pour quelle raison une jeune coiffeuse d'un salon Jacques Desange a-t-elle été surprise qu'on l'appelle et qu'on lui demande de se déplacer?
Pour aller coiffer.
Parce qu'Orlando voulait pas sortir parce qu'il pleuvait.
Qu'est-ce qu'il nous raconte là?
C'est drôle.
Expliquez-moi, Orlando voulait pas sortir parce qu'il pleuvait.
Ah bah oui, apporte-moi un parapluie, c'est mon chignon qui va friser, qu'elle revienne cette connasse.
Merci.
J'ai très mal fait, je suis éminateur.
Quand tout a du souci à se faire.
Orlando, vous parlez du frère de Dalida.
Oui, oui, Orlando.
Parce qu'il a une chevelure.
Parce qu'il y a du vent ou il pleut et donc il peut pas sortir.
Mais c'est ses vrais cheveux, Orlando?
Ah oui,
non, parce qu'il y en a quelques-uns dans le métier qui peuvent aller faire coiffer leur moumoute et en restant chez eux, même
parce que quelqu'un avait besoin d'une coiffeuse en urgence.
Exactement.
Genre Sarkozy ou un truc comme
pas
ça.
Pas Nicolas Sarkozy.
Carla Bruni.
Bernadette
Chirac. Fillon.
François Fillon, pourquoi?
Pour lui faire l'arrêt.
Pour lui refaire l'arrêt.
Pour sa femme?
Ben non.
Pour lui.
Pour aller en Europe. Pour aller à Bruxelles.
Ah oui. Non, pour aller à Washington.
Mais surtout à cause de sa.
Sa moumoute.
Non.
Mais non.
Sa calvitie.
Mais non, de sa grippe.
Non.
Elle s'est fait tailler les sourcils.
De sa sciatique.
Mais non, qu'est-ce qu'il a de particulier, François Fillon?
Une mèche.
Sa mèche rebelle. Merci, Stevie Boulet. Bonne réponse. Et vous avez jamais remarqué qu'il avait une mèche rebelle?
C'est bien, c'est pas le seul, il y a Borloo aussi qui est souvent éméché.
C'est vrai.
Ferry aussi, il avait un espèce de...
Et donc là, il y a une petite coiffeuse de chez Desanges qui a dû aller à Matignon pour lui couper sa mèche.
C'est bizarre.
De manière...
Il n'a pas coupé la mèche. Quoi. C'est extraordinaire. Depuis que je suis gamin, il a toujours eu la mèche.
Fillon, il est obligé de faire la chose la plus banale du monde pour qu'on parle de lui. C'est aller chez le coiffeur.
Andrea Vaza est un footballeur qui vient de fêter son anniversaire. Mais où a-t-il invité sa quinzaine d'amis à fêter son anniversaire?
Dans la vitrine d'un couturier. Il vit dans un appartement qui est entièrement vitré, qui est la vitrine du couturier à Milan.
Excellente réponse de Laurence Boccolini. Alors là, là, vous avez lu ce papier dans Libération?
Ouais, mais ils en ont parlé aussi via Manzano, ou je sais pas quoi, à Milan, dans la rue qui est l'équivalent de l'avenue Montaigne.
C'est un couturier belge.
C'est bizarre.
Qui s'appelle Dirk Bickenbergs, qui a engagé...
C'est bien cette marque.
Ah, vous connaissez?
Ouais, c'est super bien.
C'est un footballeur amateur, hein, autrement il aurait pas le temps de rester.
Il vit en vitrine.
Alors, oui, oui, oui. Pas en vitrine, dans tout le magasin en fait. Le magasin a été conçu avec une salle de bain, un lit, il passe d'une pièce à l'autre et on voit effectivement à travers les vitrines du magasin quand il passe d'une pièce à l'autre, quand il se réveille, quand...
La journée, il y a des clients.
Il y a des clients.
Sa copine vit dans un petit loft à Amsterdam, même chose aussi, sur la rue, en vitrine.
J'aimerais bien faire ça chez Christian Dior.
1300 mètres carrés de magasin, donc il y a de quoi faire.
Ouais, c'est ça, d'accord.
Tenez, je vous le montre en photo si vous voulez voir le mannequin témoin. Footballeur amateur qui travaille donc pour le Belge Dirk Bickenberg. Je ne connaissais pas cette marque.
Ah oui, il est pas mal, dis donc.
Ouais, il est très mignon. Hein.
Tu sais, Stevie, il va aller le voir, il va faire comme dans Midnight Express, il va coller son téton contre la vitrine comme ça.
Moi, on m'a proposé la même chose de vivre dans un magasin, chez Castorama.
Stevie ferait bien du lâche-vitrine, je vois.
Ah, encore malade, on l'avait proposé chez Ikea.
Ikea, c'est très sympa.
Ça va être bizarre quand même de vivre dans un magasin.
Pas
plus que dans une cave, vous savez.
Moi, chez un marchand de journaux, j'aimerais bien vivre. Non, c'est vrai, c'est rigolo. Vous avez de la lecture, les magasins. Moi, j'adore.
Mais enfin, vous êtes dérangé souvent aussi. Hein.
Pourquoi?
Pour vendre des.
Non, mais quand c'est fermé.
Quand
tu dis ce que tu veux, c'est cool.
Rester enfermé. Moi, voilà, si je devais choisir un magasin, ce serait un magasin.
C'est ça. Le rêve de se faire enfermer un soir dans quel magasin?
Puis un kiosque qui fait 1300 mètres carrés, il y en a plein partout en plus.
Moi, truc dans un magasin de bandages hernières, Docteur Gibault et tout ça, ça doit être formidable. De pouvoir essayer des fauteuils roulants, des
malade,
béquilles.
Hein.
Moi, une charcuterie.
Ah oui?
J'inviterai mes amis arabes pour les faire chier.
Vous, Stevie, dans quel genre de magasin aimeriez-vous être enfermé?
Jardiland, parce qu'il y a des plantes et de la déco.
Jardiland, mais c'est vrai que vous êtes jardinier. Hein.
Ah là là, mais oui, on est Jardiland.
Un peu comme Madame Obama, qu'on a vu jardiner à la Maison Blanche. Oui. Ça y est, elle a ouvert son potager. Dans son potager, il y aura quelque chose qui avait soulevé une polémique pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, parce qu'on avait dit, vu que le président aimait ça, qu'il était trop élitiste. Qu'est-ce que Madame Obama a planté d'élitiste dans le potager de la Maison
roquette.
Blanche? De la roquette. Bonne réponse de Laurence Boccolini.
Et alors, au contraire d'Obama, Obama déteste les betteraves. Elle voulait mettre des betteraves, mais il adore la roquette, donc elle aime la roquette. Et moi, j'ai horreur de la roquette.
Mais la roquette, c'est élitiste.
C'est de l'herbe.
C'est élitiste.
La salade.
D'ailleurs, et regardez Bush, les roquettes, il les gardait pas pour lui. Il les envoyait en Irak.
C'est marrant comme Madame Obama a la main verte en tout cas.
Ouais, ça c'est sûr.
C'est une mutante.
Non, c'est marrant qu'elle veuille faire un potager, c'est rigolo. Quoi.
Mais c'est bien le potager, faut faire.
Moi j'adore,
des
mais ça prend du temps. Hein.
Quand on va sur le marché acheter des légumes qui arrivent d'Espagne, etc. Moi je vois mes parents hein, ou même des amis à moi, ils ont leur potager, mais ils mangent en longueur de journée, en longueur d'année pardon. Les salades, les tomates, les concombres, les haricots, tout ça. Mais non, mais
ils broutent tous les jours dans le jardin.
Mais non, mais c'est hyper important.
Oui, mais c'est vachement de boulot.
C'est comme ça. Et l'économie qu'il fait en vaisselle, c'est génial. C'est...
Mais non, mais tu fais plein d'économies, mais c'est bien, et puis c'est bon aussi.
Je viendrai biner quand vous voulez. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Laurence Boccolini, Stevie, Fabrice Éboué, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe. Françoise et Hicham qui sont là aussi. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bonjour Françoise. Vous habitez Saint-Hilaire-sur-Benzère, comment on dit?
Benèze.
Benèze. Ah ben il y a une faute alors dans ce qu'on m'a écrit sur ma fiche. Benèze, donc Saint-Hilaire-sur-Benèze. C'est dans l'Indre.
En dessous de Leblanc.
Ah oui.
Ah oui, bien sûr.
En dessous de Leblanc. Tu peux pas savoir, Fabrice. Tu peux pas savoir.
Dans l'Indre. On se situe beaucoup mieux tout de suite.
Ouais, c'est ça, non, c'est à 4...
Entre Poitiers et Châteauroux.
Bien sûr, à 80
km. Entre Poitiers et Châteauroux.
Il y a une boîte de nuit qui s'appelle La Machina, pas loin.
Exact. Ça a changé. Ça, c'est... Maintenant, c'est La Cabane.
Ah. La Cabane.
Ah, ça donne encore plus maintenant. Envie maintenant. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Françoise?
Je suis maroquinière.
Maroquinière. C'est-à-dire
vendre la maroquinerie
à domicile.
Non, je
Elle vend des marocains sur catalogue.
Elle est marocaine. Non, je suis maroquinière. Je fais des petits articles en petite maroquinerie.
Ah, c'est-à-dire que vous les fabriquez vous-même.
Voilà.
Ah voilà, vous n'êtes pas vendeuse. Vous
non,
êtes,
non, non.
Vous faites des sacs, vous faites des valises.
Non, des petites maroquineries. Hein.
Ah, des portefeuilles.
Porte-monnaie d'âme, porte-carte.
Porte-carte. Voilà.
Elle est où votre boutique?
Ah non, j'ai pas de boutique. Je travaille pour une. Pour la plus grande marque
française
au monde.
Au Vuitton, monde, Vuitton.
Non.
Hermès.
Lancel.
Lancel.
Non, je peux pas dire. Je
bah,
sais
c'est
pas
la plus grande marque.
Comment
alors.
Ça, vous pouvez pas dire
bah, je sais pas, c'est.
Mais si, non, si,
vous pouvez dire ici.
Naf Naf.
Alors, c'est Hermès.
Hermès.
Ah, Hermès, c'est lié.
Ah, et donc, vous nous appelez d'une du sud-est asiatique dans une cave avec des enfants.
Non, on travaille tous en France.
Françoise de Saint-Hilaire sur Bénèze travaille pour Hermès et elle va affronter Hicham qui habite Thionville. Bonjour Hicham.
Bonjour Hicham.
Qu'est-ce que vous faites Hicham dans la vie?
Je suis employé de banque.
Employé de banque à Thionville, quelle banque?
EFA, European Fund Administration.
Oula!
C'est comment... luxembourgeois, ça.
Ça sent le pognon.
Vous avez un petit message, Françoise, à faire passer?
Qu'on nous laisse 5 minutes pour. Enfin, 5 secondes pour répondre.
3 secondes. Oh, mais la question n'est pas facile, là. À mon avis, vous avez vos chances. Et vous aussi, Hicham. Vous avez un petit message, Hicham, à faire passer?
Bah, en fait, moi, je regrette la non-présence de Benichou. Hein,
ah, oui, gentil pour les autres.
Merci pour nous.
Parce que je suis un grand fan de Benichou. D'ailleurs, je suis. Membre actif sur son groupe dans Facebook, là.
Il a un Facebook, Pierre Bénichou.
Fan club sur Facebook.
Ah bon? Bah écoutez, alors on va y adhérer nous aussi, mais on transmettra en tout cas vos amitiés à Pierre, Hicham.
Ok, parfait.
C'est parti. Et
bonne chance à Françoise.
Je vous emmène à Shanghai, puisque ce sont des producteurs chinois qui ont décidé de créer une comédie musicale là-bas à Shanghai. Comédie musicale dont le thème est assez original. Quel est le thème de cette comédie musicale?
Le couple Sarkozy-Bruni.
Pas du tout. Début 2010 devrait démarrer l'adaptation
c'est
de cette comédie.
C'est chinois comme thème?
C'est l'adaptation d'un livre. Ah, c'est pas chinois.
C'est un livre
Non, pas un livre d'Amélie
Nothomb. Harry Potter?
Non.
Un classique, de la littérature française.
Un livre pour enfants?
Qu'est-ce que vous dites, Hicham?
Un livre pour enfants?
Non, non. Un grand classique, c'est vrai.
De la littérature française?
Littérature française, non.
Oscar Wilde?
Non.
C'est vraiment un...
Je veux l'auteur et le nom du livre adapté en comédie musicale.
C'est de la littérature anglaise.
Littérature, le mot est un peu fort.
Non, c'est de la bande dessinée. C'est Tintin et le Lotus Bleu.
Ce n'est pas de la bande dessinée.
Non, donc Agatha Christie.
C'est pas Agatha Christie.
C'est de la littérature, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a écrit un bouquin.
Oui, enfin, c'est un livre, mais ça s'appelle pas de la littérature.
C'est dans le livre où se passe l'histoire à Paris.
Le Kama Sutra.
Il y a pas d'histoire dans
le livre. C'est le livre de Barack Obama.
Non.
C'est le livre de recettes de Jean-Pierre Coff.
Le livre rouge de chez qui là?
De Mao. C'est pas ça, mais.
Le Kama Sutra.
Mais on se rapproche.
C'est pas Mein Kampf,
c'est pas Mein Kampf.
Non.
Le livre de Karl Marx alors.
Bravo, je vous accorde la bonne réponse. Ah, le Capital de Karl Marx.
Ça va être très chouette.
Effectivement, le Capital de Karl Marx en comédie musicale.
Ça va être bien. Sûr.
Bienvenue dans mon kolkhoz.
Je t'en prie, fais comme chez toi.
Salaud de capitaliste.
Prolétaires, prolétaires, unissons-nous
pour abattre le capital.
Salaud de banquier, salaud de banquier.
Bah, dis pas ça au pauvre banquier qui joue.
C'est vrai Cham, il a trouvé ça, il est banquier. Il
ah oui, en plus
c'est dingue.
Mon cœur est à gauche.
Ah,
oui.
Ah, son cœur est à gauche.
Mais mon compte est en Suisse.
C'est ce que disait Jean-Yann. Hein. C'est une des phrases préférées de Jean-Yann que j'aime. C'est pour mes idées, je vote à gauche, mais pour mon confort, je vote à droite. Hein. Hicham, en tout cas, vous avez remporté le filet garni.
Ah bah c'est super alors.
Écoutez, je vous rappelle les quelques cadeaux qu'on offrait aujourd'hui qui sont quand même assez superbes. Par exemple, le livre d'Alain Juppé, vous allez faire un tabac dans votre banque avec ça. Je ne mangerai plus de cerises en hiver chez Plomb. Je citerai aussi le livre d'Hervé Claude chez Actes Sud, Nickel Chrome, le livre de Juno Diaz, un très bon livre paru chez Plomb qui s'appelle La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao. Des places si de Thionville vous avez envie d'aller jusqu'à Paris pour applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Ce sera possible?
Ouais, c'est possible.
Alors, j'ajoute aussi des places pour applaudir Stevie Boulet dans Ma femme est folle au Théâtre des Nouveautés. Deux places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Et un an d'abonnement pour Cuisine Créative, c'est le trop. Magazine d'art de vivre et gastronomie.
Ah, j'ai été gâté, hein. Merci. Hein.
Ah bah ça, vous êtes plus que gâté. Ah, oui. Hein. Ça, Marc serait là et vous demanderait de partager.
Ah bah, de tout rendre, oui.
Partager.
Bah, je veux bien partager si elle est intéressée par le livre d'Alain Juppé. Avec,
Voilà, vous lui laissez les cerises en quelque sorte. On vous embrasse, on vous remercie tous les deux.
Bravo. On va se gêner et se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices, évidemment.
Europe 1, on va se gêner.
La question facile, la question qui récompense Joujou.
Où peut-on voir une cocotte de légumes et fruits d'automne rôtis et cuits en feuilles de châtaignier sur une table ?
À la Tour d'Argent ou au Bristol ?
Là, ça va être la couverture d'un livre.
Non.
C'est un restaurant ou pas ?
Ce n'est pas dans un restaurant. Où peut-on voir une cocotte de légumes et fruits d'automne rôtis et cuits en feuilles de châtaignier ?
Sur une photo ?
Sur une table. Pas sur une photo.
Sur un tableau ?
Sur un tableau ?
Sur une bague ?
Non.
Sur un grain de riz ?
Sur, non.
Sur, une œuvre d'art ? Une œuvre d'art ?
Une sculpture.
C'est une sculpture.
Donc c'est dans une exposition.
Cette cocotte de légumes et fruits d'automne rôtis et cuits en feuilles de châtaignier sur une table, c'est une sculpture.
C'est pas une sculpture de Andy Warhol.
Faut trouver où elle est?
Oui.
Au musée Jean-Pierre Coff?
Non.
Au Grand Palais?
Non.
Au Louvre?
C'est en France?
Oui, c'est en France. Réfléchissez un tout petit peu.
Dans un grand restaurant?
Non, pas dans un grand restaurant.
Plutôt dans un musée, un lieu dédié aux expositions?
Comment ça, un lieu dédié aux expositions?
Genre une galerie d'art, un musée.
Un musée, en tout cas, c'est un musée.
C'est un musée.
Au musée de la cuisine?
Non.
Au musée de la faïence?
Non.
Au musée du légume?
Non.
Au musée de la céramique?
Au musée du fruit, au musée de la châtaigne, au musée du...
De la cocotte?
Au musée de l'homme?
Réfléchissez un peu.
C'est un musée ou une exposition?
C'est un musée, monsieur.
C'est au musée Picasso?
Non. Où est-ce qu'on peut voir cette cocotte de légumes et fruits d'automne rôtis et cuits en feuilles de châtaignier?
Au musée Grévin?
Oui, pourquoi?
Bah, ça doit être ce qu'il y a devant un chef.
Lequel?
Ducasse.
Bonne réponse de Laurence Boccolini.
Ouais.
Bien joué.
Ah oui, d'accord.
Et j'ai au téléphone Éric Saint-Chaffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le sculpteur qui avait réalisé la statue de cire d'Alain Ducasse qui vient de rentrer au musée Grévin. Et dans France Soir, on nous raconte que vous êtes amusé à reproduire en cire jusqu'à la cocotte de légumes et fruits d'automne rôtis et cuits en feuilles de châtaignier qui est un des plats emblématiques de Ducasse, c'est vrai ?
Alors c'est partiellement vrai. Moi, j'ai pas réalisé l'intérieur de la cocotte. C'est en fait, ce sont les ateliers du musée qui ont fait ce travail prodigieux, parce que c'est ça part du moulage de légumes qui ont été livrés par le restaurant du Plaza, et ils ont donc reproduit de façon magistrale tous ces légumes qui ont reçu une cuisson rapide, et après ils sont appliqués à transmettre un peu la transparence. Hein, on a vraiment l'impression d'être devant quelque chose qui est vraiment à déguster.
Vous faites pas dans le légume, vous faites dans le portrait, vous.
Moi, je fais plutôt dans l'homme, ouais.
Lui, il fait dans les grosses légumes.
Bah, je dois dire qu'il est très ressemblant à Ducasse. On a la photo, là, dans Direct Matin, le journal gratuit, du faux Ducasse et du vrai Ducasse. Je dois dire que je ne sais pas lequel est le vrai et lequel est le faux.
C'est dingue, ça.
Franchement.
Vous avez fait qui, vous, personnellement, monsieur?
Ah, mais moi, j'ai fait plein de personnalités, parce que ça fait plus de 25 ans que je travaille pour le musée, donc
Ducasse il a posé.
Ducasse a posé, il est venu pour un premier rendez-vous, en fait toutes les mesures, les photos, etc.
Mais il ne pose pas tous, si.
Les morts, non, les morts.
Kennedy n'a pas posé.
Les internationaux, les gens qui sont inaccessibles ne posent pas. Bon, sur le territoire métropolitain, on essaie d'avoir des rendez-vous, de faire poser les gens. C'est le gage d'une meilleure réussite.
Moi, je regarde la photo et je vais vous dire, je vois lequel est le vrai, aussi, lequel est le faux. C'est le vrai, c'est celui qui a l'air vraiment content de voir l'autre.
Dites-moi, ce qui m'intéresse, c'est la récup. Par exemple, les To Be Free qui ont été au musée Grévin, ils y sont plus. Qu'est-ce que vous en avez fait ?
Une Valérie d'Amido.
Eh bien, écoutez, j'en sais rien. Je suis simplement sculpteur, mais bon, il y a des stocks.
Alors, celui que vous êtes... Allez, vous pouvez nous le dire à nous. Celui que vous savez, que vous l'avez un peu raté, quoi. Ou celle que vous avez un peu ratée.
Celui ou celle que j'ai un peu raté, c'est... Pour monter un peu en arrière, parce que là on a fait vraiment
des progrès,
du bon travail depuis 5 ans, et on peut pas dire que les personnages soient ratés. Alors ils sont pas toujours complètement parfaits.
Mais le pire,
il y en a où le modèle de base est déjà raté, donc faut.
Mais celui vous avez des regrets, quoi.
Allez, Christine O'Krent.
Ah, vous avez un peu raté Christine O'Krent.
Elle était pas complètement satisfaite, et sa mère non plus.
Et par exemple, pour des gens comme Ophélie Winter, vous refaites la statue tous les mois, comment ça se passe?
Suivez bien le modèle.
Moi, je suis, je, suis, suis d'accord parce que c'est du travail pour moi. Non, on fait pas les statues.
Vous préparez, alors vous allez me dire si c'est fait ou pas fait déjà. Simone Veil.
Simone Veil, c'est en préparation.
Carole Bouquet.
Carole Bouquet aussi, mais c'est pas moi, c'est un autre sculpteur. On est trois sculpteurs.
Barack Obama.
Ah ouais, bah ouais. Barack Obama, c'est en cours.
C'est vous ?
Oui.
Ah, et alors comment vous faites là ? Il vient pas poser, Barack Obama ?
Non, ben voilà, il vient pas poser, donc photo de presse.
Ce serait drôle d'ailleurs, imaginez, parce que il Sarkozy, vient. Qui n'arrive pas à l'avoir à l'Elysée, il y a Barack Obama, il vient passer 24 heures au Grévin pour poser.
Oui, mais justement, on sait qu'il vient prochainement, et voilà.
Angela Merkel.
Angela Merkel, elle est presque prête, oui.
Le chef monégasque est à l'honneur au Grévin, et vous, Eric Saint-Chaffray, vous êtes sculpteur exclusif pour le musée de Grévin, ou est-ce que vous sculptez d'autres choses ?
Non, oui, bien sûr. Oui, je fais
enfin, les guignols aussi.
De sculpteur.
Combien coûte une statue ?
Combien coûte une statue ? Écoutez, dans la mesure où c'est pas une production commerciale, il y a un prix de revient, mais il n'y a pas de prix de vente, en fait.
Mais par exemple, si je voulais avoir un faux Stevie chez moi, je pourrais.
Oui, bien sûr.
Pour le vrai, c'est moins cher.
Bien sûr. Vous pourriez nous faire toute l'équipe, là, par exemple, en cire, avec un prix d'amis ou un truc.
On peut faire toute l'équipe, il n'y a aucun problème. Moi, je peux le faire.
Attendez, monsieur.
Si je suis avec toute l'équipe, là, je veux bien rentrer, alors.
Non, mais vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez un jour au Grévin, vous tenez là, simplement, immobile, et puis vous attendez la réaction des gens. Et puis les gens passent, oh, regarde, t'as vu.
On l'a fait déjà pour des caméras cachées.
Oui,
ça
marche.
Ah oui, ça fait une
peur. Ça fout la trouille.
Terrible. Parce que ça fait peur, la nuit, le Grévin. Je sais pas si vous êtes déjà resté la nuit.
Je me souviens d'une époque où il y avait un grand dog. À l'époque, c'était le chien qui accompagnait Vidocq et il était au milieu de la salle des colonnes. Et bah, la nuit, il n'y avait pas de lumière pratiquement et c'était pas rassurant.
Enfin, non, moi, j'y suis allé la nuit, je me suis cogné dans Mousse Diouf.
On vous remercie, Eric Saint-Chaffray, sculpteur pour le musée Grévin qui vient d'accueillir Ducasse. Si je vous dis qu'on va bientôt écouter, là, sur Europe 1, dans quelques secondes, Florian Pépuis, qui a 28 ans, connaît enfin le succès. Est-ce que vous êtes capable de me dire le vrai nom de Florian Pépuis ?
Bien sûr, c'est celui qui chante comme un manouche sans guitare.
Mais non, ça c'est Thomas Dutronc. Quand je dis vrai nom, son vrai nom, c'est Florian Pépuis. C'est évidemment son pseudo, son nom d'artiste. On l'écoute régulièrement sur Europe. C'est le tube numéro 1 du moment.
Ouais. Like a Hobo ?
Non.
Non, c'est un mot le titre.
Hein. Ouais, exact. Ouais. Alors.
Mais le mot, c'est ça.
C'est là où on voit si vous êtes fort.
Je sais que c'est un mot, mais je sais plus quel mot.
Peps. Peps. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Liberta.
Europe 1, on va se gêner.
Dorémy Fassi. Liado.
Bonjour Serge Liado, les Beatles et Eric Chardin au programme aujourd'hui.
Oui, j'en profite qu'il n'y ait pas Benichou pour parler des Beatles. Nous aimons tous les Beatles et Eric Chardin en particulier. Dans un album qui est sorti en 69 qui s'intitulait La Chine, on trouve quatre titres qui sont, enfin dont certains passages sont empruntés à des phrases mélodiques très significatives du répertoire des Beatles. Par la suite, dans l'album Stone et Chardin qui date de 72, on retrouve encore un petit peu du Beatles. Le plus connu, c'est l'introduction de L'été sera chaud, qui date de 79 et qui a été carrément pompé sur l'intro de Nowhere Man des Beatles de 1965.
On se souvient de ça avec Laurence. L'été sera chaud,
l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots.
Ça, c'est le refrain.
Et le jambon.
L'intro de Nowhere Man, c'est
In an
early Nowhere Man coming from a nowhere land.
Voilà, ça ressemble à Stone, ça. Il aurait mieux fait d'ailleurs de copier les Stones plutôt que de copier les Beatles. Eric Chardin.
Un peu Stone ce jour-là.
On vérifie tout ça.
1.
She's not a girl who misses much. Les feuilles de lierre sortent de tes paupières.
4.
Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you.
Quand je
serai vieux, l'amour sera si gris qu'il ressemblera à la pluie.
A love that should have lasted years.
Quand je vois dans ma main le dessin.
5. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo.
Une conclusion s'impose, Eric Chardin aime les Beatles.
Ah oui, et nous aussi.
Et on aime bien Eric Chardin quand même.
Bien sûr.
Mais alors on aime encore mieux Patrick Juvet, et particulièrement, je le sais, Laurence Boccolini est fan de Patrick Juvet.
Ah bon Serge, que oui.
Mais je crois qu'il vaut mieux l'entendre chanter, on va dire, sur disque qu'en concert, c'est ça?
Oui, parce qu'en concert, bah, il lui arrive de chanter en playback, et évidemment, vous le savez, les techniciens qui sont des
salauds,
plaisantins,
c'est horrible,
s'amusent à détourner le son. On a déjà entendu, rappelez-vous, America chanté par Patrick Juvet, et ça c'est une autre, ce sont deux autres chansons.
Ils ont fait ça aussi pour Enrique Iglesias.
Oui, Britney Spears aussi. Hein.
On va écouter la Musica et le Lundi au Soleil, revisité par les techniciens de Patrick Juvet.
Donc c'est vraiment Juvet qui chante, ouais. Sauf qu'il ne sait pas qu'il est enregistré parce qu'il est en playback.
Voici la première difficulté, saccadez bien votre placement.
La pluie sur les toits, c'est la Musica.
Encore une phrase très rythmée.
Le son de ta voix.
Prendre une respiration.
C'est la Musica. La Musica. C'est le vent et c'est l'orage en été.
Travailler le grand écart entre les notes.
La Musica. C'est un simple bruit d'air. Un vol d'hirondelle.
Attention à l'articulation. Respirez juste avant. Petite astuce.
Le lundi au soleil. On pourrait le passer à s'aimer. Un lundi au soleil. On ferait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir du raisin. Tout simplement ne rien faire. Le lundi au soleil.
Attention à la justesse.
Le lundi au soleil.
Prendre une grande inspiration pour être bien juste.
Que toi c'est pareil. C'est quand on est derrière les cartes. Quand on travaille.
Entraînez-vous sur un tempo plus lent pour une bonne articulation.
Mon Dieu, c'est bien, ça prépare pour la nouvelle star ce soir.
C'est terrible. Et puis il y a un coach là. Hein.
À sa décharge, ça a jamais été un grand chanteur.
Non.
C'était un chanteur de look,
ouais, mais c'est
de d'ambiance.
Quand même, ça quand même. Hein.
Sa carrière est faite, Patrick Juvet. Oui, ça va.
Ça peut pas être pire que Julien Lepers qui chante que pour le plaisir.
On n'est pas en train de détruire une carrière
non.
Naissante. Non.
Non.
Comme disait Stevie, ça tue le mythe.
Non mais maintenant, dès que tu vas le voir chanter, tu vas.
Mais plus personne.
Et plus personne ne voit chanter, voilà, chante plus. Et puis les ingénieurs du son ont le droit de se marrer.
On n'est pas en train de détruire le mythe, c'est plutôt les mythes qui sont en train de le détruire.
Il fait jeune encore.
Très jeune.
Je trouve
trop
que
jeune.
Les ingénieurs du son qui ont fait ça, c'est moins pire que ce que lui a fait son chirurgien.
Ah ouais. C'est vrai, bravo. Non, ça c'est vrai.
Serge Liado.
Oui. Merci Sergio, oh là là.
Bah écoutez, on se retrouve demain pour d'autres désastres.
Oui, soyons honnêtes, il ne chante pas toujours faux. Je l'ai vu dans la tournée Âge Tendre, c'est correct quand il veut.
Ah bah dans la tournée Âge Tendre,
par rapport aux autres.
Forcément par rapport aux autres.
Non mais ça se trouve, là il avait la grippe, il avait 39 de fièvre et une gastro. Non mais c'est pas
ça. Va,
bien sûr. Bien sûr.
Mais attends, si on branche pas le micro et qu'il y a le playback, c'est parfait.
Où sont les chiens? Où est passé le papier?
Je rappelle qu'en début d'émission, on a trouvé mon histoire de pipi sur le carton.
Ça va bien.
Du truc, on l'a trouvé vulgaire. Je dis ça et je ne dis rien.
On se retrouve après la pub.
On va gêner, se poursuit sur Europe 1 avec aujourd'hui Laurence Boccolini, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et évidemment Monsieur Laurent Ruquier.
Europe 1, on va gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi?
Qui a dit Monaco est un abri pour l'argent sale, qu'il soit d'origine criminelle ou issu de la fraude fiscale?
Oh, dis donc, c'est pas
Trichet?
Monsieur Trichet, non. Jean-Claude Trichet, non.
Johnny Hallyday?
Non.
C'est un politique,
c'est un politique français.
Je peux même vous donner la phrase dans son intégralité.
Oui.
Monaco est un abri pour l'argent sale, qu'il soit d'origine criminelle ou issu de la fraude fiscale. C'est encore plus insupportable en temps de crise.
Ah ouais. Estrosi?
Non.
Politique français.
C'est un politique français?
Politique français, non.
Monégasque?
Monégasque, non.
Berlusconi?
Non.
Politique ou pas?
Politique, oui. Plus ça va, plus c'est quelqu'un qui se lance dans la politique.
Bedos?
Non.
Mais pas français, français? Pas français.
Pas français au départ, mais qu'on connaît très très bien en France, car c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en France.
Cobendit?
Non. Comment vous avez dit?
Cobendit?
Cobendit.
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 Cobendit. Il n'arrive pas à traiter un homme de conne.
Alors,
il vit plus en France.
Pardon,
il vit pas en France.
Cette personne-là vit de temps en temps en France et en ce moment plutôt en France.
Bernard-Henri Lévy?
Non.
Ingrid Betancourt?
Non. Mais non, on a dit que c'était un étranger.
Jane Birkin?
C'est un homme ou une femme?
C'est une femme.
Jane.
De plus en plus en politique.
Elle vit beaucoup en France.
Oui, elle avait plutôt quitté la France ces dernières années.
Madonna.
C'est pas non. Carla.
Céline Dion dira un truc sur Monaco, vous.
Qui rentre en politique.
Ouais, ouais.
Madonna.
C'est pas Carla Sarkozy.
Non.
C'est pas Madonna. C'est non. pas.
C'est quelqu'un de gauche.
Alors c'est quelqu'un qu'on situerait. Là, en tout cas, elle va se présenter aux européennes et ce sera.
Eva Jolie.
Eva Jolie, bonne réponse de Jérémy Michalak. L'ex-juge Eva Jolie qui sera sur la liste Europe Écologie, même tête de liste d'Europe Écologie pour les prochaines européennes du 7 juin pour la région Île-de-France. Elle fait son retour
elle mâche pas ses mots.
Dans la vie politique française. Eva Jolie qui égratigne le rocher. Il va pas être content le prince.
Oh non!
Albert.
Bah non.
Non, mais
vous l'avez rencontré déjà.
Oh, j'aimerais Albert. Bien, moi.
Ah oui?
Ah, j'aimerais bien.
C'est votre côté nageuse qui vous fait dire ça?
Non, j'aimerais bien le rencontrer, je suis sûr qu'il doit être sympa.
Ouais, il doit être sympa. Je te le présenterai si tu veux.
C'est vrai, tu le connais?
C'est mon père.
Ah, j'adore. Ah, bah oui!
Toi aussi?
Non, il doit être marrant. Il peut pas être sinistre comme ça, il doit être marrant.
Autre question, qui retourne au Texas aujourd'hui?
George Bush.
Non.
C'est pas moi!
Non.
Qui retourne au Texas?
Une équipe.
C'est tout simple, hein, franchement.
Bah, c'est Lance Armstrong, voyons.
Eh oui!
Bravo Fabrice.
Ah, c'est avec sa clavicule. Alors là, il y a un mystère autour de cette histoire. Je sais pas si vous avez vu ça, parce que effectivement, Armstrong se serait brisé la clavicule lors de ce Tour de Castille et León. C'est en Espagne. Le septuple vainqueur du Tour de France a dû abandonner. Normalement, on nous dit qu'il va rentrer au Texas aujourd'hui. Enfin, ça, c'est la thèse officielle dans toute la presse. Sauf que j'ouvre l'équipe. Et qu'est-ce que
ça
je vois dans l'équipe? Certains témoins prétendent qu'Armstrong serait tombé seul et qu'il avait donné déjà des signes de nervosité. Alors que lui, j'ai entendu dire aux infos...
C'était un groupe.
Que c'était un groupe, qu'ils étaient tombés à plusieurs. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé au kilomètre 153. On sait que le dossard numéro 2, Armstrong, était dans le fossé. Mais on ne sait pas trop comment il est arrivé dans le fossé. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'ils sous-entendent
par là? Ça s'est produit sur une ligne droite, sur une partie de route en mauvais état. Lorsque je l'ai vu, dit le technicien d'Astana, lorsque je l'ai vu, il était au bord du fossé. Il se tenait l'épaule et il disait qu'il pensait qu'elle était cassée. Mais il n'en était pas sûr. Parce qu'il s'était jamais cassé la clavicule auparavant.
Oui,
J'ai chuté juste derrière lui, à un mètre, dit un autre coureur. Il est tombé sur le côté droit, sur l'asphalte, juste avant de rouler dans un fossé. Je n'ai vu tomber personne devant lui, seulement derrière lui, contrairement à ce que lui prétend.
Il dit qu'il est rentré dans le groupe et que tout le monde avait tombé.
Voilà. Mais c'est parce qu'il en était retourné quand
mais
il
mais est-ce que tu sais vraiment, quand tu t'es pété un truc, ce qui s'est passé?
Exactement.
C'est bizarre, moi je dis cette histoire-là.
Tu veux qu'on fasse une enquête?
Attends, ça voudrait dire quoi? Qu'il serait tombé exprès, tout seul?
Parce qu'il se sentait pas.
Pour éviter le Tour d'Italie.
Je vous rappelle quand même qu'il a terminé 100 et quelques tièmes
c'est pas bon
ce week-end dans le Milan-San Remo. Hein, c'est quand même pas.
Oui, mais dans les délais, c'était ce qu'il visait. Hein.
125e du Milan-San Remo. On apprend aussi
c'est
dans la presse aujourd'hui que sa femme va accoucher au mois de juin, alors qu'il devait être normalement au mois de juin sur le Giro. Qu'il est finalement content de retrouver sa femme pour la naissance du bébé. Bon.
Tu émets l'hypothèse donc que ce serait une excuse.
Moi, je voudrais lui toucher la clavicule pour être sûr.
J'ai peur.
Mais tu sentiras rien.
Non, mais lui, peut-être.
Ah, bah oui.
Mais il est peut-être pas encore reparti.
On nous dit en tout cas qu'il sera prêt pour le Tour de France.
Eh bah tiens! Voilà.
De toute façon.
Eh ben, on espère. Ouais.
Donc ça veut dire qu'il va rentrer se droguer tranquille au
Sauté. Voilà,
c'est ça. Pour revenir en pleine forme.
Il a dû trouver un nouveau Médoc. Il est vite rentré là-bas pour l'essayer. Et puis il va revenir. Il va être premier du Tour de France. Et là, il y aura forcément magouille.
Non, parce que 100 et quelques, c'est pas bon comme position. Hein.
Moi, je suis pas sûr qu'on le reverra. Vous voulez que je vous dise comme ça? Je le sens comme ça.
Tu le sens comme ça, toi?
Je sens que le mec, il se dégonfle.
Ouais. Comme les pneus.
Mais tant que c'est pas son vélo, ça va.
Ouais, non,
Fabrice, vous y connaissez en cyclisme.
C'est vrai que c'est ma spécialité, le cyclisme. Vraiment, c'est. Oh. J'ai regardé le tour du Burkina Faso.
C'est le truc le plus pathétique.
Exceptionnel.
Ça existe. C'est génial.
Ah, c'est
génial.
Extraordinaire parce que ils veulent avoir exactement le même matériel qu'au Tour de France. Mais c'est des cailloux sur la route, si tu veux. Donc quand t'as des vélos avec des petits trous comme ça, c'est le truc c'est le plus drôle de la Terre.
Quoi. C'est le Paris-Roubaix tous les jours.
Les pauvres.
Tracy Chapman, Sing for You. Ah.
Jusqu'à 18h. Sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier.
Pas gêné. La question bête.
Certains chroniqueurs ont toutes leurs chances.
Oui, c'est bête parce qu'il y a juste un mot à trouver. Comme tout à l'heure, je vous ai bien piégé avec le monsieur restructuration. Vous avez mis 5 minutes pour trouver le mot restructuration. Bah, voilà, je vais faire la même chose. Et c'est toujours à propos de la crise, d'ailleurs. Hier, dans Le Parisien, on nous disait que quand même, il fallait être optimiste, qu'on embauchait encore dans certains secteurs. Et à l'occasion de cet article, on nous racontait le contenu d'un livre signé Hervé Baumler, qui est consultant et qui publiait ce livre aux éditions Erol, qu'il publie d'ailleurs toujours, un livre de conseils. Alors, ce livre publié chez Erol par Hervé Baumler s'appelle 1-1-1 pour s'en sortir. 1-1-1 cache un mot, à vous de retrouver.
Un seul mot
lequel.
C'est un mot en trois syllabes alors.
En trois syllabes, exact.
C'est un verbe.
C'est un verbe.
Travailler.
Pour s'en sortir, c'est pas mal ça. Travailler pour s'en sortir.
Démerder, débrouiller.
Alors, voyager. On est sur l'idée qu'il faut être optimiste, qu'on peut toujours retrouver du travail. Que
fantasmer.
Quand on en perd un, comment vous dites?
Fantasmer.
Souriez.
Espérer.
Essayez de mettre toujours le truc dans son contexte.
Souriez pour s'en sortir.
Souriez pour s'en sortir, non.
Inventer pour s'en sortir.
Inventer pour s'en sortir.
Imaginer. Imaginer.
Pour s'en sortir, non.
Rentrer pour s'en sortir, non.
C'est en plus dans le espérer, c'est dans le positif, c'est dans le...
Non, c'est un conseil. Le titre est un conseil en soi.
Cuisiner pour s'en sortir.
Non.
Suicider pour s'en sortir.
Non. Rigoler.
Non.
C'est un verbe du premier groupe.
Alors, ce n'est pas un verbe du premier groupe.
Ah, du deuxième.
Du deuxième oui. Groupe.
Ça nous aide vachement.
Du troisième groupe.
Troisième, je crois que c'est troisième
c'est
groupe.
C'est en verbe. C'est pas hier et c'est pas hier.
Je sais que c'est pas le premier après, bon.
C'est Andreux.
Ah non, c'est pas Andreux.
Ah, c'est hier.
C'est en hier.
C'est en hier.
C'est en hier, donc c'est deuxième groupe.
Non, pas forcément.
Alors, pas forcément.
C'est troisième aussi.
Du troisième.
Oui.
Enfin, ou quatrième.
La majorité, c'est deuxième groupe.
C'est en hier ou pas?
Non, hier pour s'en sortir.
Repartir, non.
Pas repartir. Bon, c'est facile là maintenant.
Revenir pour s'en sortir.
Revenir pour s'en sortir.
Ah mais je sais pas pour les gens qui sont partis.
On est dans la crise.
Rebondir.
Rebondir. Bonne réponse de Laurence Boccolini.
Ça j'aurais pu le trouver tout de suite.
On a posé.
Rebondir pour s'en sortir. Bonjour Hervé Baumler.
Bonjour.
Alors effectivement il faut rebondir. Peut-être c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous donnez des conseils dans votre livre. Quand on dit dans Le Parisien que vous êtes consultant en quoi? Parce que c'est vague consultant.
Alors, je suis un consultant en transition de carrière, c'est-à-dire que j'aide les gens à justement gérer une période qui est difficile, qui est l'entre-deux jobs.
On va vous donner le numéro de Gérard Miller. Hein, qui...
Alors, est-ce que les 5 conseils qu'avait choisi Bénédicte Alaniou dans Le Parisien hier étaient les conseils que vous auriez retenus dans votre livre « Rebondir pour s'en sortir » ? Premièrement, s'interroger sur ses envies profondes. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait.
Oui.
Déjà, avant de rebondir, il faut savoir ce qu'on sait faire, connaître ses compétences et savoir surtout ce qu'on veut faire.
Ne pas résister au changement, c'était le deuxième conseil.
Ne pas résister au changement, oui, parce que en fait, c'est pas en s'accrochant à ce qui marche pas ou à ce qui marche plus qu'on va réussir.
En gros, ça veut dire tourner la page, quoi, c'est ça?
Oui, tourner la page et le plus vite possible pour s'inscrire dans l'avenir.
Alors, soigner son réseau, ça c'est intéressant.
Alors, soigner son réseau parce que en fait, on se rend compte que beaucoup d'emplois se trouvent aujourd'hui par le réseau. Le réseau, c'est d'aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas par rapport à un projet qu'on a. En fait, c'est d'aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas de la part de gens qu'on connaît.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir le copain des copains des copains.
Très américain, exactement. Ça.
C'est Facebook.
Ça peut être Facebook, ça peut être aussi... Enfin, ça remplace pas. Facebook ne remplace pas la rencontre physique. Il faut aller vraiment rencontrer des gens dans leur bureau. Et pour les rencontrer dans leur bureau, il faut venir de la part d'une connaissance commune.
Et pourquoi les Américains sont plus doués pour ça que nous?
Bah, déjà, en France, on a un mot qui tue, qui est le réseau. Hein. On va parler du réseau de la drogue, de la mafia, de la prostitution. Les Américains, ils ont un mot beaucoup plus positif qui est le networking.
Ouais.
Ah bon, je vais dire ça, moi, maintenant.
Moi aussi. Networking.
Networking.
Plutôt qu'aller aux putes, on peut dire je network, par exemple.
Rejoindre une association, c'est le quatrième conseil.
Oui, le quatrième conseil, c'est la pire des choses en recherche d'emploi, c'est la solitude.
Ouais, mais en même temps, quand je lis qu'il faut rejoindre un groupe de chercheurs d'emploi, c'est un peu risqué, parce que s'il y a qu'un job et puis que vous êtes trois sur le même job, c'est plutôt la guerre que la solidarité, non?
Bah oui, mais la plupart du temps, on n'est pas trois sur le même job, on est sur des jobs très différents, des projets très différents, et on est plus fort en groupe.
Avoir un discours personnel, c'est le dernier conseil.
Ah oui.
Un discours, en fait, anti-crise, c'est-à-dire ne pas ressasser la crise, toujours parler de la crise, plutôt se positionner comme un apporteur de solutions, quelqu'un qui donne envie, qui est plutôt positif, plutôt que quelqu'un qui a un discours négatif, tsunami.
Vous donnez tous ces conseils parce que vous-même, vous avez rebondi pour vous en sortir, c'est-à-dire qu'avant d'être consultant dans ce domaine, vous faisiez tout autre chose?
Exactement. Moi, je me suis fait licencier en 2001 suite à la...
Vous aviez volé dans la caisse?
Vous étiez pâtissier, je crois.
Suite tout bêtement aux incidents de New York, vous savez, deux tours qui se sont effondrées.
Un peu comme François-Xavier de Maison, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et donc, moi, j'ai changé de métier à ce moment-là et j'ai pu rejoindre des groupes de chercheurs d'emploi et j'ai expérimenté une autre crise, puisque les crises, c'est tous les 7 ans maintenant.
Rebondir pour s'en sortir, c'est aux éditions Erol. On vous remercie pour ces quelques conseils qui, je l'espère, seront profitables à nos auditeurs. Merci, monsieur Hervé Baumler.
Merci, monsieur. Au revoir.
Une dernière petite question. Allez, avant 18h, qui a évité de faire du vélo hier?
Michel Drucker?
Non. Qui a pu éviter de faire du vélo hier?
C'est-à-dire comment ça, il a pu éviter?
Les Indiens!
Quoi, les Indiens?
Parce qu'il y a la Nano qui est sortie hier, première voiture indienne.
Et quel rapport?
Eh ben, le rapport, c'est que c'est, enfin, je sais
ils
pas.
Ont aller
ils ont pu se payer une Nano.
Voilà.
Non, alors je vais la poser comme il faut,
cette question. Ouais, s'il te plaît.
Qui a échappé à la corvée vélo hier?
On veut un nom.
C'est une corvée?
Oui, on veut un nom.
En Vélib.
Pas en Vélib.
C'était du Vélib.
C'est à Paris?
Ça se passait pas à Paris.
C'est pas du vélo d'appartement. C'est du vrai vélo.
Du vrai vélo.
C'est du vrai vélo,
c'est du vrai vélo
professionnel?
C'est du vrai vélo. Qu'est-ce que vous appelez un vélo professionnel?
Professionnel, c'est-à-dire c'est une course de vélo pour des coureurs cyclistes?
Non.
Professionnel?
Non. Non.
C'est un politique.
Non.
C'est du vélo d'amateur.
Une manif.
Réfléchissez un peu. Qui a échappé à l'obligation de faire du vélo hier?
Quand tu dis faire du vélo,
Bertrand Delanoë?
Quoi?
Faire du vélo, c'est fabriquer un vélo ou c'est faire du vélo?
C'est rouler à vélo.
Qui a échappé à une séance bicyclette hier, si vous préférez.
Et c'était une séance bicyclette médiatisée?
Ah, Roselyne Bachelot?
Médiatisée, j'y pense qu'il y a eu... Vous voyez, Roselyne Bachelot sur un vélo.
Bah oui.
Bah oui, c'est bon. Mangerbouger.fr. Quand dit on bien. Mange, il faut faire du sport, il faut bouger.
On dit bien, et ta grand-mère fait du vélo, donc pourquoi pas Roselyne Bachelot?
Ouais. C'est une femme.
C'est pas une femme qui a échappé à
c'est
la
un
séance
homme,
vélo.
Donc. Noël Mamère?
Non.
Non, c'est pas un politique.
Ah bon, ah oui.
C'est à quelle occasion?
Hier après-midi, il y en a plusieurs qui ont fait du vélo, puis bah lui,
il y a échappé, mais il était échappé. Content.
Il y a échappé.
Parce que quelqu'un l'a raccompagné en bagnole.
Il était content. Peut-être qu'il aurait aimé faire partie de tous ceux qui ont fait du vélo, mais.
Ah, c'est pas,
Mais il est arrivé trop tard, en quelque sorte.
C'est un groupe d'amis?
Non. Oh bah d'amis, j'espère quand même qu'ils s'entendent bien, oui.
C'est un groupe politique?
Ah, c'est
pas du tout.
C'est du tandem?
Olivier Besancenot?
Non.
C'est des rugbyman?
Non, pas des rugbyman.
Ah, c'est les
des footballeurs. O'Haro.
C'est O'Haro. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Qui a été rappelé trop tard. Il était sur la Côte d'Azur.
Et voilà, oui, il était déjà parti en vacances sur la Côte d'Azur puisqu'il n'était pas sélectionné chez les Bleus pour jouer contre la Lituanie.
Et l'autre, il s'est cassé.
Les autres commençaient à s'entraîner à faire du vélo.
Et puis, aïe,
voilà, Nicolas Anelka est au repos forcé et là l'agent de O'Haro a dû l'appeler en lui disant: dis donc mon gars, reviens coco, tu es sélectionné pour la première fois en équipe de France. Il a eu le temps de refaire ses valises, il a sauté dans un avion et il a rejoint ses camarades, mais il a échappé à la séance vélo d'hier. C'est déjà ça.
Qu'est-ce qu'il y a, Gueule? Mais non, mais c'est bien. J'imagine les types, et c'est quoi? C'est pour un nouveau style de match? Ils font des matchs de foot à vélo maintenant?
Et non, c'est l'entraînement.
Ça se joue au vélodrome en même temps. Allez savoir. Je sais pas où ça se joue.
C'est ridicule.
Lituanie-France. Ça se joue en Lituanie, je crois.
C'est en Lituanie parce qu'ils prévoient qu'il fasse 0 degré.
Ça se joue à Kaunas.
Kaunas.
Toi-même. On se retrouve demain à 16h.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.